Pluriel Gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Eh bien bonsoir à tous et à toutes. J'ai le plaisir de retrouver Boris déjà à la régie. Boris.
Hey, bonsoir Gérald.
Bonsoir Boris, est-ce que ça va?
Ça va très très bien.
Bon, et je retrouve Yvan Mitifio, directeur artistique du festival Écran Mixte.
Bonsoir.
Que nous n'avions pas eu depuis longtemps à l'émission.
Eh bien, je suis revenu. Très heureux de revenir dans cette émission homosexualiste.
C'est ton grand retour.
Le comeback.
Oui, alors homosexualiste, pourquoi? Tu trouves qu'on fait du prosélytisme sur Pluriel Gay?
Non, c'était pour faire une petite pique en ce moment aux conservateurs qui nous embêtent un petit peu avec les campagnes de pub.
Ouais.
De la campagne de prévention du sida SexoSafe. Si tu veux faire un petit récap.
Oui, alors, SexoSafe, c'est une association, hein, on est d'accord?
Non, SexoSafe, c'est le... c'est le ministère de la Santé publique,
d'accord.
En fait, qui lance une campagne,
ouais,
de prévention du sida destinée, plutôt orientée pour les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, ce qu'on appelle HSH.
Voilà. Mm.
Donc, pendant 5 ans, ils ont eu une campagne qui s'appelait « Prends-moi », dans lequel des petits fascicules de prévention étaient distribués dans des lieux plutôt communautaires et qui étaient vraiment destinés, on va dire, aux gays, à la sexualité purement gay, avec toutes les spécificités. Et là, ils ont décidé de faire une campagne beaucoup plus généraliste dans la cité, on va dire.
Donc, c'est une émanation du ministère de la Santé.
Oui,
alors,
complètement.
D'accord.
Oui,
d'accord.
C'est eux. Et donc là, l'objectif est de parler... parce qu'il y a énormément de nouvelles contaminations auprès du public, donc on va dire hétéro, hein, des hommes mariés, tout ça, qui ont de temps en temps des aventures extra-conjugales avec des hommes, une sorte de pulsion. Et,
irrésistible.
Et très...
Surtout quand ils te voient.
et donc, voilà, cette campagne est aussi destinée à eux, aux tout venants, et c'est vraiment formidable. Moi, je trouve ça absolument formidable. Et en ce moment, il y a une campagne de dénigrement de cette campagne, justement. Et là, j'ai vu que les conservateurs mettaient des bandeaux. Des bandeaux sur ces affiches.
Oui, alors ça, c'est des gens de la Manif pour tous qui ont effectivement détourné les affiches en mettant aussi des messages dénonçant donc justement l'homosexualisme, donc le prosélytisme supposé de ces affiches, etc. Alors, c'est vrai que les affiches, elles sont explicites dans le sens où on voit des couples parce que ça s'adresse à un public spécifique. Donc, bien entendu, on a la représentation de couples d'hommes, en fait, hein. Tout à fait soft, évidemment, hein, ça va de soi, mais voilà, ça n'a pas l'air de plaire effectivement aux conservateurs, et puis la Manif pour tous, notamment.
Mais ce qui leur plaît pas, c'est qu'on parle de choses qui existent au sein même de la société,
oui.
Parce que ce qu'ils veulent, eux, c'est que l'homosexualité reste dans la cellule cachée de la chambre à coucher. En fait, non, l'homosexualité fait partie de la vie civile, donc elle a sa place de partout, tout simplement.
Oui. Oui, c'est la visibilité. Alors bon, il y a eu tout le discours sur... Il y a des affiches... Alors c'est des affiches qui sont sur les abribus. Donc beaucoup d'abribus ont ces affiches et certains se trouvent à proximité d'établissements scolaires, etc. Donc il y a effectivement une tonne de propos hallucinants là-dessus en disant mais c'est inciter les enfants à devenir homosexuels ou quoi, enfin des choses comme ça.
Mais hein. Quand on voit des pubs...
Faire la promotion de l'homosexualité.
Et quand on voit des pubs pour des soutiens-gorge, tout ça, pareil, hein, à côté des écoles aussi. Hein.
Certes, mais selon eux, il vaut mieux être hétéro que homo. Homo, on n'est pas dans la norme, hétéro, c'est la norme. Voilà.
Et donc, SexoSafe est partenaire d'Écran Mixte, donc soutiendra financièrement aussi le festival Écran Mixte. Et nous, on participera à leur campagne, on diffusera leur plaquette. Ça reste de la prévention. C'est complètement officiel, c'est de la prévention. Mmh. Et puis aussi, dans notre catalogue, il y aura très certainement des espaces publicitaires destinés à SexoSafe.
Oui, parce que pour revenir à cette campagne, précisons bien, encore une fois, qu'il s'agit bien d'une campagne de prévention des maladies sexuellement transmissibles, des IST, à destination d'un public particulier, un public visé, le public des HSH, donc les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, que ce soit dans un contexte, comme tu le disais, occasionnel, ou dans un mode de vie qui est plus homosexuel, je dirais, plus gay, voilà. Mais ça s'adresse à tous les HSH. Hein.
Et là, la nouveauté, c'est qu'ils vont commencer aussi à communiquer auprès de, des sites généralistes, notamment comme Viva Street, qui est un site un petit peu comme Le Bon Coin. Mmh. Et il y a une section rencontre homme, ouais. rencontre homme. Et dit-on qu'il y a beaucoup d'hétéros qui y vont. Et je trouve ça absolument formidable.
Je précise, donc, des hétéros qui recherchent à avoir une sexualité, des rapports sexuels avec un homme.
Un homme, de mmh. manière occasionnelle. Voilà. Ce qu'on appelle un hétéro curieux, ou mmh. bien parce que, parce qu'ils ont envie, tout simplement, de prendre du plaisir. Et donc voilà, SexoSafe va communiquer aussi auprès de ces sites généralistes, alors que Prends-moi ne le faisait pas. Donc c'est vraiment formidable. C'était pas le même cible. Là c'est plus. Et donc ils ont un site internet aussi qui est très bien fait, qui explique tout. Si on se pose des questions, ouais. ne pas hésiter à y aller.
Les images, elles sont diffusées de la. La campagne de, donc de prévention, elles sont diffusées aussi sur le net pour ceux qui éventuellement n'auraient pas d'abribus dans leur ville. Mais
et dans Hétéroclite, hein, il y a une grande page, une pleine page de pub dans,
oui,
dans
voilà.
Hétéroclite.
Et il faut savoir aussi qu'il y a des maires hein, qui ont voulu interdire la campagne, qui cherchent à interdire la campagne d'affiche, hein, notamment le maire d'Angers et le maire de Aunay, Aunay-sous-Bois en Seine-Saint-Denis, les deux étant des maires des Républicains, des maires de droite. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais on a surtout parlé de cela, puis c'est des villes importantes. Je sais que la préfecture de Seine-Saint-Denis, par contre, a porté plainte contre le maire d'Aunay-sur-Bois pour, parce qu'il n'aurait pas le droit d'interdire une campagne comme celle-ci, qui est une campagne donc, financée par, par l'État. Hein, donc il n'a pas le droit de s'opposer, d'interdire dans sa commune une campagne comme celle-ci. On verra la suite. La campagne, de toute façon, s'achève la semaine prochaine. Hein, c'est jusqu'au fin novembre, hein, je ne sais plus exactement quelle date, le 29 ou le 30. Après, on passera à autre chose, mais il y aura toujours des sujets.
La violence qu'il y a eu sur Twitter, les ouais. échanges absolument hallucinants. Mmh.
Oui, oui, bah, c'est toujours l'occasion. De toute façon, quand on va sur les pages des opposants ou de la Manif pour tous, etc. Pour la Manif pour tous, ils font un peu de ménage parce qu'ils ne veulent pas que le côté homophobe apparaisse trop. Mais dans certains... Il y a comment... c'est un journal des Ardennes dont j'ai oublié le nom qui a publié les messages qu'ils recevaient sur, sur leur site suite à l'article relatant donc les déboires de cette campagne, hein, les problèmes liés à cette campagne. Et ils ont reçu des dizaines et des dizaines quand même de messages homophobes très durs. Voilà. Ils ont décidé de les publier oui. pour dire voilà ce que c'est encore l'homophobie aujourd'hui. Bon, moi, j'ose toujours espérer que dans ce cas, les gens qui s'expriment derrière un écran ne sont pas non plus la majorité, hein, que c'est une poignée de personnes qui se défoulent comme ça. Je l'espère, en tout cas. J'aurais du mal à croire. J'espère, en tout cas, qu'une majorité de la population pense ça. Mmh. Mais bon. Voilà, j'espère toujours. Quoi. Tu sais, je suis un peu bisounours, moi.
Et on rappelle quand même, puisqu'on est en pleine période électorale, qu'aujourd'hui, Frigitte Bardot a rejoint le soutien, elle soutient Fillon. Donc, il faut s'en rappeler aussi.
L'ex de la Manif pour tous.
Enfin, voilà, et puis
pour... qui a contribué à lancer ce mouvement.
Voilà, et puis pour voir à quel point cette dame est tout à fait respectable, il suffit d'aller sur Yahoo, vous tapez « Fais-moi l'amour avec deux doigts » et vous avez un formidable clip... qu'elle avait enregistré il y a quelques années, ouais. chanson absolument débile, pour voir un peu le niveau de cette femme qui ose nous donner des leçons à nous.
Alors, donc, si tu es là, Yvan, ce n'est pas que pour parler de la campagne publicitaire de SexoSafe, donc, mais tu nous rappelais que c'est un partenaire, SexoSafe.
Oui, absolument.
SexoSafe, je vais y arriver, du festival.
Alors, SexoSafe... fait de la communication au sein des soirées festives, des soirées dansantes, et soutient aussi les festivals. Mmh. Et Prends-moi nous soutient depuis la première édition. Donc Prends-moi est devenu SexoSafe et ils continuent donc leur soutien au festival. On en aura bien besoin puisqu'on ne sait pas trop ce que l'avenir nous réserve. Bon. On sait par exemple, puisqu'on parle de financement, on sait que le festival Face à Face de Saint-Étienne, le festival LGBT qui débute vendredi, s'est vu sucrer sa subvention de la région, 5000 euros en moins tout de même. Et nous, on attend la décision. Apparemment, on est passé en commission, mais on attend la décision.
Ouais. Alors, le festival Face à Face, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, parce que c'est le festival de Face à Face donc de Saint-Étienne et de la métropole stéphanoise. Va débuter bientôt, vendredi. L'an dernier, on avait eu des représentants du festival au téléphone. qui nous avait dit des choses très intéressantes sur ce festival d'ailleurs, mais on y reviendra. Mais moi, ce qui m'interpelle, je dirais, dans ton propos, et c'est pas pour polémiquer, mais c'est vrai que, j'ai reçu de nombreuses associations ici, évidemment, hein, c'est aussi mon désir de recevoir le plus d'associations possible pour qu'elles puissent s'exprimer sur un média. Et beaucoup ont évoqué souvent, très souvent, les craintes liées à l'arrivée de Laurent Wauquiez à la région. Laurent Wauquiez, qu'on connaît pour ses positions ultra-conservatrices. Et ça se confirme, puisque la région, sous l'impulsion de Laurent Wauquiez et de ses équipes, supprime des subventions à certaines associations. Et par contre, alloue des sommes à d'autres associations. Je pense aux chasseurs, par exemple.
2 millions d'euros.
2 millions d'euros pour les chasseurs. Et puis les festivals culturels comme Écran Mixte, par exemple. Enfin, Écran Mixte, on ne sait pas. Mais déjà, face à face, on se voit couper leur subvention. Alors, il y a aussi Vue d'en face. Alors, ce n'est pas des grosses sommes. Je veux dire, face à face, 5 000 euros. Enfin, ce n'est pas des sommes énormes. Mais le peu que la région allouait avant, maintenant, ça disparaît complètement.
Il faut savoir qu'on est quand même des festivals très pauvres, on est surtout des festivals de militants, on travaille beaucoup en association avec des partenaires, on n'a pas d'argent, hein, les festivals LGBT. Donc si on nous enlève un peu, en fait, on nous enlève
ça beaucoup. Ça fait beaucoup pour, ouais. Pour votre organisation. Vue d'en face aussi, à Grenoble, ils ont reçu des réponses, tu es courant ? Parce qu'il y a trois festivals finalement, hein, dans Rhône-Alpes.
Ils sont passés en même temps que nous,
ouais.
Ils n'ont pas la réponse non plus.
D'accord.
Donc je pense que ils font comme moi, ils appellent tous les jours, ils envoient des mails, ouais. Voilà, j'ai encore appelé aujourd'hui.
Ouais. Et toujours pas de réponse.
Toujours pas de réponse, non.
Et toi, tu...
On m'a dit d'envoyer un mail, j'ai envoyé un mail,
voilà.
J'attends.
Et tu es dans quel état d'esprit, pessimiste par rapport à tout ce qu'on vient de dire ou,
J'observe ce qui s'est passé à côté de nous, hein, Saint-Etienne. Donc effectivement c'est inquiétant, ça c'est franchement inquiétant, parce que le festival Face à Face Saint-Etienne est quand même un festival tout à fait respectable et qui fait un vrai travail, et en plus pourquoi je ne comprends pas pourquoi supprimer des subventions à des festivals qui marchent. Face à Face marche très très bien, nous aussi, donc je vois pas l'intérêt.
La culture serait-elle peut-être quelque chose de peu, enfin pas primordial dans l'esprit de certains politiciens?
Ah ben c'est dangereux la culture.
Voilà.
La culture ne sert à rien, mais elle est absolument indispensable.
En tout cas, on sait qu'il y a apparemment un vent de conservatisme qui souffle un petit peu.
C'est inquiétant. En tout cas, je voudrais dire quand même, quelle que soit la décision de la région, ce qui fera que le festival perdure et s'il continue, ce ne sera pas les décisions des financeurs, ce sera uniquement le public. Donc le festival Écran Mixte, je prends l'exemple d'Écran Mixte, le festival ne cesse d'augmenter d'année en année.
Ouais.
Donc il n'a aucune raison.
Par rapport à l'audience, tu veux dire
Oui, donc il n'y a aucune raison. À partir du moment où le public veut ce festival, à partir du moment où les grands partenaires veulent ce festival, il n'y a aucune raison ni de le réduire, ni de le supprimer. Donc on trouvera d'autres systèmes, on aura peut-être moins d'invités, on fera moins de communication, mais dans ce cas-là, on comptera vraiment sur le soutien des spectateurs pour parler, pour buzzer autour du festival, partager nos publications sur Facebook, ouais. Voilà, on va se débrouiller autrement.
Et d'autres institutions publiques, d'autres collectivités vous allouent des subventions ?
Uniquement la ville de Lyon, nous a téléphoné, ils ont dit qu'ils seront bien entendus là, et qui feront passer la subvention avant que le festival se déroule, afin qu'on puisse toucher la compte de la subvention avant le festival, puisque il y a quand même de grosses dépenses d'argent, notamment des TGV qu'on prend à l'avance pour les invités, puisque plus on prend les TGV à l'avance, moins c'est cher.
Ouais.
Donc la ville de Lyon fera passer notre subvention au mois de janvier pour qu'on puisse toucher l'argent au mois de février. Donc la ville de Lyon nous soutient depuis les débuts, vraiment.
D'accord, donc du coup, bah, on est un peu suspendu à la décision de la région, quoi.
Ben oui, on attend. Mais on le fera savoir, c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne veulent pas trop communiquer là-dessus pour l'instant. Mais en tout cas, on le fera savoir, ça c'est certain.
La décision.
La décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise.
Bien sûr. De toute façon, c'est une collectivité territoriale, donc automatiquement, toute décision doit être mise...
C'est l'argent public.
Mise en évidence, enfin, portée à la connaissance du public, c'est normal.
Je vais vous dire...
Chacun doit pouvoir juger...
La région Rhône-Alpes nous donne 3000 euros. Bon, c'est pas beaucoup, mais pour nous, c'est un tiers du budget, parce que c'est un festival à 12 000 euros. Et je peux vous dire que les 3000 euros d'argent public on l'utilise bien, je pense. Voilà, tout est là, tout est sur l'écran. Vu le nombre de projections gratuites qu'on propose, le nombre d'invités, il y a pratiquement un invité à chacune des projections. Je pense que l'argent public est bien employé chez nous.
Bien, à bon entendeur, salut. En tout cas, il faudrait être présent si on veut. C'est voilà. L'esprit militant aussi.
Voilà, et puis partager, parce que si
on nous animer pour aller aussi au Festival Écran Mixte.
Si on peut pas communiquer dans la presse, acheter des encarts pub pour faire connaître le festival, il faudra vraiment compter sur les spectateurs pour
oui.
faire.
Écran Mixte en plus, qui est donc un festival de qualité en général. Donc, je veux dire, c'est un acte militant, mais soutenir quelque chose aussi qui est.
C'est important de rappeler ça tout le temps. C'est que c'est effectivement aller à Écran Mixte, c'est se faire plaisir pour aller voir un film, découvrir des films, mais c'est aussi soutenir l'équipe, soutenir des films aussi qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans le réseau de distribution, et donc c'est important.
Oui, absolument. Des films, d'ailleurs, grâce à Écran Mixte, on a pu voir des films, des documentaires qui n'auraient jamais été diffusés sur Lyon si vous n'aviez pas été là.
Des documentaires et des classiques aussi.
Oui, bien sûr.
Je pense à Victor ou une Victoria qu'on a traduit l'année...
De chasse en Bavière, il y a quelques années aussi.
Ah, c'était remarquable.
Hein. Oui, sur grand écran, c'est extraordinaire.
Et Victor ou Victoria, on est très content puisque le film tourne. D'ailleurs, il passe vendredi soir à la Cinémathèque de Saint-Étienne dans le cadre du festival Face à Face avec nos sous-titres. Donc voilà, donc maintenant on va se rapprocher de plus en plus, il va y avoir plus de solidarité entre les festivals, on va se passer des passerelles plus souvent, et notamment à Face à Face, on a décidé de leur donner une carte blanche lors de la prochaine édition. On va leur donner une carte blanche de court-métrage, donc ils viendront programmer chez nous toute une séance de cours. Voilà, on va faire de plus en plus de cartes blanches comme ça pour se soutenir aussi.
Oui, alors, puisqu'on parle de Face à Face, on va revenir un petit peu aux dates. Donc, c'est vendredi. Alors, ça commence vendredi, hein, c'est ça ?
Et ça finit dimanche.
Donc, Face à Face, comme je le disais, on les avait au téléphone. Et ce qui était intéressant, enfin, en tout cas l'an dernier, j'ai pas trop regardé leur programme cette année, mais ils associaient beaucoup aussi de spectacles vivants avec le cinéma, etc. Ils ont aussi une séance court, hein, court-métrage.
Une nuit avec une compétition.
La nuit du court. Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi que le court, ça marche bien finalement.
Les courts-métrages.
Et vous en présentez aussi à Écran Mixte.
On commence. Les courts-métrages, très clairement, c'est un format qu'on ne voit pratiquement nulle part. Voilà. Donc c'est au festival de permettre à ces films d'exister, tout simplement. Donc nous, on est en train de développer ça d'abord par des cartes blanches. L'année dernière, on avait donné carte blanche au Festival de Nice. Pour une séance de court-métrage qui a eu tellement de succès qu'on a été obligé de la passer dans deux salles en simultané. Et cette année, ce sera Face à Face qui viendra proposer une sélection de leurs films primés ou de leurs nouveautés.
Très bien, c'est une bonne chose. Donc on sera présent évidemment, c'est au mois de mars, on a encore le temps de se voir venir.
Comme d'habitude.
Voilà, mais déjà l'équipe est au taquet, je suppose. Alors Écran Mixte, c'est pas seulement... Le festival qui donc a lieu en mars, c'est aussi des activités et des événements tout au long de l'année. Et justement, comme il y a de l'événementiel là qui arrive, c'est l'occasion de venir pour nous en parler aussi. Alors, on voulait parler de plusieurs choses. Alors, par quoi veux-tu commencer ? Il y a plusieurs sujets... sur lesquels Écran Mixte est impliqué.
Donc, on est très heureux de recevoir un réalisateur culte à Lyon. Donc, on est partenaire de la venue à Lyon de João Pedro Rodrigues, le fameux cinéaste portugais, auteur en 1998 d'un film qui est devenu instantanément culte, Au Fantasma. On n'avait jamais vu ça à l'époque, on n'avait jamais vu un film aussi radical, un univers aussi...
Alors, Au Fantasma, moi je l'ai vu, comme beaucoup je pense, nos auditeurs doivent connaître peut-être, en tout cas j'espère. C'est effectivement un film, qui est intéressant déjà, ça se passe un petit peu, c'est une errance dans les rues de Lisbonne, c'est souvent la nuit, c'est une errance sexuelle hein, quelque part, hein, d'un garçon qui est surchargé de désirs et qui cherche des partenaires sexuels. Et c'est un film qui est à la fois donc une œuvre cinématographique, qui me fait penser un peu au livre de Jean Genet, tout simplement. Parce que Jean Genet, c'est de la littérature, on est d'accord, c'est très bien écrit, mais en même temps, c'est un livre qu'on lit d'une seule main, si j'ose dire. Et, non, mais... C'est tellement plein, ça dégorge tellement de désirs et de... Mmh. Eh bien, Au Fantasma, c'est pareil pour le cinéma. C'est une œuvre cinématographique, c'est pas fait n'importe comment. Il y a des plans, du cadrage et une histoire. Mais en même temps, il y a des scènes qui sont... Moi, celle qui m'a marqué, c'est celle du policier. J'adore celle du policier. Bon, c'est comme ça.
Raconte-nous.
Ah mais non, je ne veux pas raconter. Non, je ne veux pas déflorer. Mais non, mais il faut. Bon, il y a longtemps qu'il est sorti le film. Mais enfin, il y a des scènes crues quand même aussi. Hein. Il y a une scène de fellation non simulée. Bon. Et bon, enfin, bah, il y a beaucoup. C'est une sorte d'errance, une sorte d'odyssée en fait d'un jeune homme. En plus, un jeune homme qui est issu, qui est pas, qui est un éboueur, quoi, qui est de la classe prolétarienne. On dira une homosexualité pas du tout raffinée qu'on pourrait imaginer, comme on pourrait imaginer. Et je trouve que c'est un film. Eh ben, c'est le genre de film qu'on regarde aussi d'une seule main. Hein.
Mais c'est surtout un fétichiste. Et ouais. Ce qui est absolument remarquable, c'est que ce jeune garçon qui parle, qui va se transformer aussi physiquement, il va devenir lui-même l'objet de son désir. C'est-à-dire qu'il est fétichiste en fait sur toute l'imagerie liée aux éboueurs avec le vinyle, tout ça. Et à la fin, il devient lui-même un détritus humain. C'est absolument remarquable. Moi, il me fait penser à... C'est un cinéaste absolument radical. Dès son premier film, il pose tout. À l'image de David Lynch, avec Eraserhead, il montre... Il y a tout. Il y a tout dans ce premier film. Et ensuite, il continue toujours dans cette voie, toujours entre lyrisme, poésie, monde fantastique, queer, évidemment, à fond, et fétichisme. Et puis, une quête de spiritualité qui est présente dès le premier film et qui, vraiment, dans le dernier film, L'Ornithologue, qu'on présente donc lundi prochain en avant-première au CNP, en sa présence... là, c'est vraiment le truc. Alors, le plus absolu.
Au Fantasma, tu nous disais, c'est 1998, et L'Ornithologue, donc, c'est 2016. Donc.
2016.
Et entre-temps, il a fait des choses quand même.
Oui, il a fait 5 films, João Pedro Rodrigues. Son deuxième film, Odette, date de 2006, racontait la quête d'une fille un petit peu folle qui faisait une sorte de grossesse nerveuse et qui elle-même était fétichiste. C'était un film très dérangeant que j'ai revu, qui m'a encore dérangé. Son troisième film, pour moi son meilleur film, un chef-d'œuvre, Mourir comme un homme, qui débute comme du Almodovar et qui finit dans autre chose, on est dans le lyrisme, dans la poésie, dans les mondes fantastiques. Son quatrième film, une œuvre magistrale, la dernière fois que j'ai vu Macao, qu'il co-réalise avec son ami, avec qui il vit depuis 20 ans, et qui est aussi son directeur artistique. Et puis là, L'Ornithologue, qui est un film absolument incroyable. On est entre Alain Guiraudy pour L'Inconnu du lac, on est chez Pasolini, bien évidemment, pour les figures christiques. On est aussi chez John Boorman dans Deliverance, puisque le film est un petit peu un survival aussi. On rentre aussi dans les mondes fantastiques de David Lynch, avec des plans vus des oiseaux dans le ciel qui observent le personnage. C'est un monde très inquiétant, très fétichiste, et le personnage donc va se transformer, j'en dis pas plus, va se transformer, évoluer. C'est un parcours initiatique intérieur.
Ouais. C'est encore une errance à quelque part.
Ah, complètement, c'est complètement une errance.
C'est dans la jungle, non ? C'est dans la rivière.
C'est la rivière, ouais. C'est canyon, non, je sais pas où c'est canyon donc au Portugal.
D'accord.
Des décors absolument incroyables. Ouais. Et ce personnage seul dans ce décor, et puis cette quête intérieure et sa transformation, parce qu'il va se transformer physiquement. C'est éblouissant, c'est incroyable, c'est du cinéma radical et du très très grand cinéma. Et João Pedro Rodrigues sera là donc lundi au CNP à 20h30 pour présenter son nouveau film. Il y aura un débat en salle avec nous, et il vient aussi accompagné donc de l'artiste avec son compagnon. Donc,
Et ça, c'est un événement écran mixte, donc.
C'est un événement écran mixte et CNP.
Et CNP.
Voilà.
Alors, je crois même que le consulat du Portugal offre un pot.
C'est ça, c'est en partenariat aussi avec le consulat du Portugal qui offrira en salle un pot aux spectateurs à l'issue de la projection.
Alors, je crois savoir que João Pedro Rodrigues, c'est mon malin, mais je ne parle pas un mot de portugais, est à Paris actuellement.
Il est à Paris à l'invitation du Centre Pompidou pour une rétrospective.
D'accord.
C'est quand même pas rien.
Et à Paris, où vient d'avoir lieu le festival Chéri Chéri.
Absolument. D'ailleurs, bonne transition. D'ailleurs, le film a obtenu le grand prix au festival Chéri Chéri hier soir.
Oui.
C'est le grand prix de Chéri Chéri.
Pour ça, je voulais te l'entendre dire.
Donc, le film a eu le prix de la mise en scène au festival de Locarno. Et puis, le grand prix à Chéri Chéri hier soir. Il était là.
Et donc ça, c'est lundi au CNP, je remettrai la
c'est lundi à CNP à 20h30,
sur les réseaux.
C'est complet.
C'est complet.
Bon, c'est complet. Essayez quand même. Allez au guichet du CNP Terreau. Il peut y avoir des désistements, en tout cas c'est complet.
De toute façon, le film là c'est une avant-première, après sortira en salle dans un circuit traditionnel.
Absolument, on sortira au CNP.
Au CNP.
À Lyon, on sortira au CNP le mercredi d'après. Ouais.
Très bien. Bon, alors moi ce que je vais proposer à tous et à toutes, c'est parce qu'on va changer un peu de sujet. Même si celui-ci est passionnant, il y en a un autre qui nous passionne tous en tant que gays. C'est Dalida. Alors pourquoi on va parler de Dalida? On verra pourquoi. Mais moi, ce que je te propose, Yvan, on va faire une petite interruption musicale. Et tu as tenu à nous passer un titre justement de Dalida qui est assez connu, mais sur lequel tu voulais revenir. Donc, il s'agit du titre Ciao Amore, hein, de Dalida, qu'on va écouter tout de suite. Puis après, on revient ensemble.
Deux ombres et de solitude, un grand amour sombre dans les habitudes, et l'on ose à peine rompre le silence. Mieux vaudrait la ou triste, qu'il chante ou qu'il gronde, pourvu qu'il existe. Je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges, et des yeux qui brillent, et des gens qui bougent.
Ben, c'était Dalida,
hein, ben oui.
Yvan. Merci Boris, nous avons envoyé, catapulté Dalida en orbite. La pauvre, elle est morte, mais ça tout le monde le sait.
Morte, ça fera 30 ans, 2017.
Ah oui.
Justement, à l'occasion des 30 ans de sa mort, un grand film vient d'être réalisé, voilà. Un biopic, comme on dit.
D'accord, on en reparlera après, parce que justement, on va revenir sur la chanson.
Oui.
Ciao Amore. Alors, cette chanson, pourquoi voulais-tu? Tu m'as dit, il faut absolument passer Ciao Amore d'Ali.
Ben oui, je pensais que tu connaissais l'histoire de Ciao Amore.
Non, je connais la chanson, mais non.
C'est merveilleux, c'est terrible, c'est tragique.
Mais tu sais, Dalida, c'est un peu une icône des vieux PD. Donc moi, je suis trop jeune pour en parler de Dalida.
Ciao Amore est une chanson d'un auteur-compositeur italien qui s'appelle Luigi Tenco, qui a été beaucoup censuré par la radio italienne par rapport à ses amitiés anarchistes. Voilà. Et dans ses chansons, il y avait toujours des messages très orientés de gauche qui étaient censurés à l'époque. Notamment dans la chanson qu'on vient d'entendre, il dit quand même Je veux voir des villes, qu'elles soient blanches ou rouges. Rouge. Et puis cette phrase, je te laisse tes livres, la cloche de l'église, la tiédeur de vivre dans cette maison grise. Voilà. Donc la cloche de l'église qui rime quand même avec maison grise. Voilà. Donc il y a quand même un message politique derrière. Donc Luigi Tenco rencontre Dalida, je crois en 66 à Rome, la ville des amoureux. Il tombe fou amoureux. Et il présente cette chanson au concours de Sanremo en Italie.
Célèbre concours de la chanson italienne.
Ouais. Mmh. Et dans, c'est lors de ce concours, normalement, on chante la chanson deux fois. Une fois par l'artiste qui la présente et une fois par une autre artiste. Et c'était quelqu'un de vraiment d'écorché vif. Et il plante complètement sa chanson quand il la présente. Il était complètement... il avait dû boire et prendre des substances. Il la plante complètement. Et ensuite, Dalida va la chanter et ça va être un triomphe absolu avec le public complètement hystérique qui va chanter avec elle le refrain. Et il va perdre le concours, il sera pas en finale et il va se suicider le soir même de la présentation de sa chanson. Quand il apprend le résultat, que sa chanson elle est que 12e, il va se suicider d'une balle dans la tête dans sa chambre d'hôtel et c'est Dalida qui va le trouver mort. Voilà.
Alors déjà, Dalida, à la base, c'est vraiment quelqu'un qui a une vie de drama queen absolue, quoi.
Une vie tragique, oui.
Une vie tragique, oui. C'est une tragédie grecque, la vie de Dalida.
Oui, depuis la naissance, hein, je crois que même son père...
Et donc...
je crois même que son père s'est suicidé aussi, non ?
Peut-être, je ne sais pas. Mais certainement.
Et tous ses amours se sont tous suicidés.
Je ne devrais pas rire.
Le suicide, c'est quand même la mort naturelle chez les PD. Donc.
Mon Dieu, mais quelle horreur. Ou chez les amants de Dalida, tout simplement. Bon. Mais de toute façon, ça y est, j'ai un fou rire. Mon Dieu, c'est horrible. Que les fans de Dalida m'excusent. On va revenir sérieux.
On
ne
l'arrête plus,
peu.
Ça y est, il est. Ah, on ne t'arrête plus.
Bon, oui, c'est vrai, c'est
souffle
difficile.
Un coup.
Non, mais en fait, bon, Dalida, c'est vrai que c'est une icône gay. Enfin, c'était une icône gay, peut-être moins pour les plus jeunes générations, comme Boris. Il va pas nous parler de Dalida, mais tout le monde a entendu parler.
Il va nous parler de Céline Dion, par contre.
On ne revient pas sur cette histoire cette semaine. Pas toutes les semaines, Céline Dion. Quoi.
Ouais, enfin, bref.
Oui, je connais Dalida.
Quoi. Oui, voilà. Bon, voilà. Oui. C'est quand même un monument national, bien aussi, sûr. Hein, aux côtés de Victor Hugo et de je sais plus qui, Vercingétorix. Bon, j'exagère un peu, pas si vieille que ça non plus, mais c'est vrai que Dalida était l'icône des gays. Pour beaucoup de gens, l'aimait dans le public homosexuel. Enfin, elle avait en tout cas un public homosexuel important.
Mais
pourquoi?
Mais parce qu'ils se reconnaissaient en elle. Sa vie tragique, la vie d'un homo.
Le côté drama queen. Alors.
Mais c'est pas rigolo la vie d'un homo, surtout à cette époque-là. Quand même. Donc ils avaient cette femme qui les représentait finalement. Et en plus, tu sais qu'elle a toujours été très proche du milieu homosexuel, d'abord par son frère, bien évidemment.
Oui.
Et puis surtout les premiers spectacles travestis.
Allez, oui, très souvent elle a été personnalisée dans les
personnalisée, puis elle encourageait ça, elle était très fière. Elle était très fière d'être représentée par des travestis.
Puis elle avait un côté cabaret aussi, un côté
Et puis c'était une femme éclairée, c'était une femme progressiste, c'était une femme de gauche qui a toujours eu des amitiés de gauche. Avec Mitterrand, avec des tas d'intellectuels, avec Luigi Tenco aussi.
Et beaucoup de ses compositeurs aussi, des compositeurs de ses chansons, étaient homo aussi. Enfin, on pense souvent à Pascal Sevran qui lui a écrit la fameuse chanson que tu connais par cœur et que tu chantes tous les jours en te maquillant le matin, Yvan.
Il venait d'avoir 18 ans, qui est une chanson proprement homosexuelle.
Mmh.
Il venait d'avoir 18 ans, qui est une chanson homosexuelle.
Ouais. Que l'on ne pouvait pas faire chanter par un homme, donc qui était écrit par un homo pour une femme, ça passait mieux.
Ouais. Et une femme éclairée, et puis voilà, c'est vrai qu'elle a une carrière après dans les années 70, bon, je trouve un peu lamentable. Moi j'aime pas cette carrière disco, un peu ça va.
Pourtant c'est là qu'elle a eu le côté le plus cabaret, le plus glamour.
Oui, mais elle a été
paillette.
C'est son frère qui l'a poussé à ça, c'est Orlando qui l'a poussé vers le mauvais goût le plus absolu, parce qu'il faut pas oublier que c'est une tragédienne. D'ailleurs, la manière qu'elle a d'interpréter Ciao Amore, c'est parce qu'elle enregistre cette chanson 10 jours après sa mort, hein, à Luigi. Donc on sent vraiment que c'est poignant, que c'est tragédienne. Je pense qu'elle aurait dû...
Une grande artiste dévoyée pour toi, alors, quelque part.
Mais c'est une immense artiste, mais qui a été mal employée par les maisons de disques, par les producteurs, par son frère qui l'a conseillé extrêmement mal.
Parce qu'à l'époque, les chanteurs, et surtout les chanteuses, étaient un peu les objets des maisons de disques, des producteurs, etc., il faut le dire aussi.
Ah ben oui, tout ça. Mais le cas le plus typique, c'est Elvis Presley, qui, pareil, faisait des horreurs à la fin. alors que bon, il avait tous les talents du monde. Mais néanmoins, elle a quand même tourné en 1986 dans le très beau film de Youssef Chahine, dans lequel elle joue le rôle d'une femme arabe marquée.
Un rôle qui a été marqué, remarqué en tout cas.
Mais Dalida, c'est ça pour moi aussi. Hein. C'est des belles chansons comme Ciao Amor, qui est une chanson magnifique. Et aussi ce côté tragédien, tragédie grecque. Et sa vie, malheureusement, est une tragédie. Elle a été très, très malheureuse.
Et c'est vrai que les médias sont souvent un miroir déformant, finalement, même à l'époque. Peut-être même plus à l'époque que maintenant, je dirais, où on entend et on voit un peu de tout et de n'importe quoi. À l'époque, la petite lucarne, la télé, c'était l'essentiel de l'information. Je ne parle pas des journaux, évidemment, des médias écrits. Mais on a, dans les émissions de variété, tout ça, elle passait, on lui posait toujours des questions un peu légères, quoi. On ne lui parlait jamais de choses très sérieuses, enfin, à Dalida. Je me souviens d'une émission où elle était, je crois que c'est Philippe Bouvard, qui l'interrogeait dans son appartement, alors son appartement tout en rose fuchsia, tu sais, un peu l'appartement de la cage aux folles, tu vois, et elle allongée, un peu à demi allongée sur une chaise, sur un canapé, avec Philippe Bouvard en face, qui lui posait des questions, bon, souvent rigolotes, parce que Philippe Bouvard, c'était aussi quelqu'un qui était très habile là-dessus pour poser des questions amusantes, mais c'était jamais des réflexions très profondes, quoi. On voyait une femme qui ne paraissait que superficielle.
Bah oui, mais comme Marilyn Monroe, quelque part. Hein.
Et qui, toutes les deux, ont eu ce destin donc tragique, donc de mourir, de se suicider. Voilà.
Et aussi, elle a été.
D'ailleurs, elle est morte peu après le film que tu évoquais de Youssef Chahine.
Oui, elle est morte, je crois, le 3 mai 1987. Mm-hmm. Et surtout, elle était très marquée aussi par sa cécité qui l'handicapait de plus en plus. Elle était quasiment aveugle à la fin, donc elle était extrêmement déprimée par rapport à ça aussi. Donc là, je rebondis sur le film. Donc, il y a un film qui va sortir, je crois, début janvier. Et il y a une grande avant-première qui se fait partout dans la France et au Pâté Bellecourt, une avant-première de ce film. Alors, c'est une soirée un peu spéciale puisqu'il y a une avant-première donc générale qui se fait à l'Olympia à Paris en présence de l'équipe du film, de la réalisatrice et des acteurs. La soirée sera présentée par Nikos Aliagas. Il y aura aussi des projections d'images d'archives de Dalida. Et ensuite, la projection en avant-première à l'Olympia. Donc, au Pâté, donc, ce sera le mercredi 30 novembre. Il y a une retransmission en salle de ce qu'on appelle le red carpet, c'est-à-dire le
tapis rouge.
Le tapis rouge. Mmh. La présentation de l'équipe du film. Et ensuite, projection du film en avant-première, grosse avant-première, puisque le film sera présenté un mois et demi avant sa sortie. Mais ce qui est intéressant, c'est... Je ne sais plus. Oui, Le Pâté fait ça souvent, notamment lors du Festival de Cannes, à l'ouverture. Il y a la montée des marches et ensuite il passe le film en avant-première.
D'accord.
Donc, le Dalida, le film, c'est un film de Lisa Adzuenlo.
Ouais.
Lisa Adzuenlo, qui est la fille de Marie Laforêt,
ouais,
qui est cinéaste et qui se fait connaître il y a quelques années quand elle a réalisé ce film LOL.
Oui.
LOL, qui était un petit peu la boom version, ouais, année 2000.
Mmh.
Elle a fait d'ailleurs un remake aux USA qui s'appelle LOL USA avec Demi Moore,
mmh,
et Miley Cyrus. Voilà. Donc là, donc c'est un grand biopic. Alors moi, ce qui m'embête un peu là-dedans, c'est que c'est un grand biopic qui a été chapeauté par Orlando.
Ah,
c'est un personnage que je ne supporte absolument pas. Je ne supporte pas la manière qu'il a de gérer le patrimoine de sa sœur.
On lui a beaucoup reproché, Orlando, justement, son attitude un peu rapace, post-mortem par rapport à sa sœur.
Et puis d'un goût, mais c'est pas possible, quoi. Un goût pareil, c'est pas possible. Dalida mérite mieux.
Oui, oui.
Des beaux coffrets, des belles rétrospectives, avec des belles choses. Bah, pas ça. Pas ces albums de remix, disco épouvantables. Et donc c'est un film, on va dire, officiel. Voilà, c'est un biopic officiel. Donc l'actrice qui joue est une Italienne, elle s'appelle Sveva Alviti, elle a 31 ans, donc elle ne savait ni parler français, ni danser, ni chanter, par contre elle est mannequin, mais elle a un corps absolument sublime, des jambes, si vous voyez la bande-annonce, des jambes hyper, hyper longues.
Mmh. Dalida était pas mal, hein, physiquement, je veux dire, elle avait un beau corps quand même.
Ah ben oui, c'est Dalida, c'est énorme.
Ouais, ouais. Ça me faisait penser, je fais une petite parenthèse vite fait, on dit que les homos l'aimaient beaucoup, mais ils sont beaucoup aussi moqués d'elle, parce que moi je pensais à Thierry Luron, qui, bon, on sait maintenant qu'il était gay, et qui était ami d'ailleurs avec Dalida, et Dalida a dit qu'elle souffrait, elle avait beaucoup, beaucoup souffert des imitations que... que Thierry Luron faisait d'elle, où il la faisait loucher à l'extrême, où il se moquait d'elle. Toi, bon, c'était son métier. Hein. Voilà, c'est une petite parenthèse. Elle était aussi moquée d'Alida, même à l'époque de sa gloire.
Donc c'est un film qui va débuter dès son enfance en Égypte, et on va voir son ascension, et puis bien sûr ses amours tragiques. J'espère qu'ils parleront, je le pense, de l'épisode Ciao Amore.
Parce que toi, le film, tu l'as pas vu encore.
Non, je l'ai pas vu. Par contre, rappelez-vous de cette série en deux parties qui était passée il y a quelques années.
Oui, il y a une quinzaine d'années à la télévision française.
Voilà, qui était très bien, sauf le personnage principal qui ne ressemblait absolument pas à Dalida. Mais il s'attardait quand même assez longuement sur cette histoire d'amour avec Luigi, et cette histoire absolument dramatique, parce qu'elle a quand même fait une tentative de suicide après avoir enregistré Ciao Amore, quand même. Hein,
oui.
Qui l'a mise à terre pendant des mois. Elle a fait 5 jours de coma, et ensuite elle a été vraiment très affectée quand même par cette mort. Donc je pense qu'ils vont parler de ça. Dans le casting, donc il est quand même pas mal. Dans le rôle d'Orlando, Gérald Russo.
Pourtant, j'ai pas le physique, hein, je ressemble pas. Dieu m'en préserve.
Jean-Paul Rouve joue le rôle de Bruno Coquat. Non, joue le rôle de Lucien Maurice.
D'accord.
Lucien Maurice, je crois que c'est le patron d'une radio. C'était pas Europe 1, je sais plus.
Peut-être, oui.
Patrick Simsit joue le rôle de Bruno Coquatrix.
Hein, ouais.
Tous. Vincent Pérez joue le rôle d'Eddie Barclay.
Mm-hmm.
Nicolas Duvauchel joue le rôle de Richard Chanfray. Et Sveva Alviti le rôle de Dalida. Moi, j'ai très hâte de le voir quand même.
Ouais. C'est ça doit être une curiosité.
Alors, on avait fait gagner des places, elles sont toutes parties.
Hein.
On les avait données à Hétéroclite.
Ouais.
Il m'a dit que c'était parti en 20 minutes. Donc, voilà. Les gens ont envie de voir ça. C'est très bien.
Et donc ça, c'est un événement qui est, comme on le disait...
Du coup, c'est un événement en partenariat avec Écran-Mix.
Avec Écran-Mix,
voilà, avec l'ornithologue, on est vraiment à l'initiative de ça. Et dans le cas de Dalida, on est simplement partenaire. Mais on soutient à fond.
Dalida, c'est donc au Pâté.
C'est au Pâté Bellecour, mercredi 30 à 20h.
Mercredi 30 novembre.
19h30 même, je crois.
D'accord.
Mercredi 30 novembre, 19h ou 19h30. 19h30.
Au
Pâté Bellecour.
Au Pâté Bellecour.
Et l'ornithologue, c'est lundi prochain à 20h30 au CNP Thérault.
Mais il n'y a plus de place.
Mais il n'y a plus de place.
Dalida, je ne suis pas sûr qu'il en reste. Hein, parce que c'est vraiment le gros buzz autour de. Tout le monde a envie de le voir, ce film.
Ouais.
Alors j'espère que ce sera un peu moins fade que l'été le biopic officiel sur Yves Saint Laurent, qui était chapeauté par Berger, alors que le film concurrent Saint-Laurent...
Mais c'est ça, il y a eu deux films.
Voilà. Il y a eu un film officiel...
Quasiment en même temps.
Voilà, il y a eu un film officiel, un film pas officiel. Le film officiel est assez plat. Le film pas officiel, qui est une espèce de fantasmagorie autour de Saint-Laurent, est un pur chef-d'œuvre du cinéma, quoi. J'espère qu'Orlando a pas trop dit ça non, ça non, ça non.
Oui, c'est vrai que s'il y avait la patte d'Orlando... Il faut juger sur pièce.
Il faut y aller. Déjà, si vous voyez la bande-annonce, l'actrice est absolument sublime.
Ouais.
Et apparemment, elle.
Ouais. J'ai vu, elle est assez ressemblante quand même dans les. C'est pas un portrait craché, mais on a vraiment l'impression de revoir Dalida quand même. Hein, ressuscitée.
30 ans donc après sa disparition.
Bien. Et je n'ai fait aucune allusion sur une éventuelle momie égyptienne hein, qui serait ressuscitée. Le retour de la momie. Non, je suis méchant. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Mais c'est plus fort que moi. Je suis comme Thierry Luron. J'aimais beaucoup me moquer de Dalida. Je continue encore. En fait, c'était aussi l'occasion de... Je me moquais un petit peu, mais c'est pas méchant. Parce que tu sais, Dalida, honnêtement, moi, j'ai dansé sur Dalida. Hein. Faut pas que je fasse le malin non plus. Mais...
Tout le monde a dansé. Même tout le monde a dansé. Génération continue à danser sur Dalida.
Voilà. Dans la période que n'aime pas Yvan, mais c'est vrai que c'est une période qui a été faste quand même pour Dalida au niveau des ventes de disques, etc. Ça, c'était formaté, c'était commercial. Mais tout le monde dansait sur... Gigi Paradisco. Qui n'a pas dansé sur Gigi in Paradisco? Bon, et puis, mais bon, c'est vrai qu'on aimait bien se moquer aussi. Ça avait un côté un peu has-been aussi, Dalida. Tu vois, moi j'étais d'une génération, on était entre les deux et on se moquait un peu la vedette des vieilles tantes, tu vois. On était, tu sais, comme on est hein, quand on est jeune, on n'est pas sympa. Et moi, j'aime bien Dalida encore maintenant. Hein, j'aime bien Dalida. Et puis, c'est vrai que son destin reste.
Et surtout, c'était une femme très intelligente. Mmh. C'était une vraie intellectuelle.
Oui, et ça, c'est vrai que ce côté-là a échappé au grand public la plupart du temps. Comme pour Marilyn Monroe, qui est une de tes idoles aussi.
L'idole.
Voilà.
j'ai vu d'ailleurs Marilyn Monroe, là, et sa robe était était la robe d'un
la robe non la robe dans laquelle elle est allée souhaiter l'anniversaire
c'est ça.
Donc quelques jours avant sa mort au Madison Square Garden à New York
au président
Kennedy, le fameux Happy Birthday, dans lequel elle était je crois encore enceinte a été vendue aux enchères, voilà. Et une somme astronomique.
Certainement, ça je n'en doute pas. Alors encore une autre star dont on connaît ta passion. On a fait d'ailleurs une émission à son sujet. Et puis là, c'est amplement mérité, évidemment. C'est David Bowie. Hein. Oui. On sait que tu t'habilles toujours en noir depuis sa mort, que sur Facebook.
Ben ça passe pas. Et mon revendeur de Wi-Fi m'a dit ça ne passera jamais.
Oui.
Donc voilà, j'ai amené un de ses derniers enregistrements. Donc vous le savez, David Bowie, avant de partir, a réalisé un disque absolument incroyable, un album expérimental de jazz fusion, électro-jazz. Et il a aussi écrit une pièce musicale qui s'appelle Lazare, hein, qui revient d'entre les morts. Donc tout est planifié, qui est une suite du film L'homme qui venait d'ailleurs. Ça se joue actuellement à Londres jusqu'au 22 janvier avec l'acteur qui joue Dexter, qui reprend le rôle de David Bowie. Et Bowie a écrit 4 titres pour cette pièce.
Dexter, il doit être bien maquillé, il doit maigrir en tout cas, parce qu'il est quand même corpulent.
Ah, il a maigri.
Enfin, Dexter, oui. L'acteur qui joue. Ouais.
Il chante très très mal. Donc il y a un disque qui est sorti, épouvantable, mais c'est un double disque. Et le deuxième disque, ce sont les nouveaux enregistrements de David Bowie.
Ah oui, et ils n'ont pas repris, hein, il aurait pu faire du playback par exemple sur des morceaux de David Bowie.
Ça aurait été mieux, oui. Ouais. Parce que là, c'est épouvantable, c'est une espèce de disque de karaoké. Mais néanmoins, dans ce disque donc, qui s'appelle Lazarus, il y a un deuxième CD dans lequel il y a les derniers enregistrements de David Bowie et qu'il a enregistré pendant les sessions de Black Star avec le même groupe. Et donc il y a la fameuse chanson Lazarus qui figure sur Black Star et 3 nouveaux titres. Et dans ces 3 nouveaux titres, j'ai choisi No Plan qui est un disque absolument magnifique. Je voudrais dire un mot là-dessus quand même. C'est une chanson qui parle du néant. Je pense que, étant donné que chez Bowie, tout est intellectualisé et planifié, il avait prévu que cette chanson sorte après sa mort, puisqu'il dit, la chanson commence par « Ici, il n'y a rien, il n'y a pas de musique », et il dit qu'il erre dans l'infini de l'espace et qu'il n'y a rien. En fait, il est en train de nous dire que de là où il est, il n'y a tout simplement rien, il n'y a rien à planifier, il n'y a rien.
Eh bien, on écoute. Nothing to jusqu'au bout. Nous barrons le calice jusqu'au bout.
Tu n'as même pas écouté, tu me parlais de Dalida pendant toute la chanson.
Non, je disais que je suis injuste avec Dalida. C'est vrai qu'elle a vraiment représenté quelque chose d'important à une époque où l'homosexualité n'est pas facile à vivre non plus.
Oui, puis elle les a portées, elle les a soutenues aussi.
Ouais. Non, mais j'adore Dalida, je ne voudrais pas qu'on se méprenne. Voilà. Juste, parfois, ça m'amuse un petit peu de revoir un peu ses prestations. C'est un peu comme Claude François, tu sais, ça correspond aussi à une époque, tu vois. Une époque dans laquelle on aime se moquer, mais dans laquelle on se retrouve un petit peu parce que c'est l'époque de ma jeunesse, de ma prime jeunesse. Bref, donc, on a écouté David Bowie. Donc on peut parler de morceau posthume, finalement, en parlant de ce morceau.
Ah bah oui, c'est un morceau posthume qui est sorti après sa disparition. Et il paraît qu'il y en a encore deux qui vont sortir.
D'accord. Voilà. Donc, c'est pas fini
encore.
Même de l'au-delà, il nous envoie encore des messages.
Il nous envoie des messages codés.
Alors, l'émission va bientôt se terminer, donc je vais juste rappeler deux choses. Les deux événements dont nous avons parlé. On aura l'occasion de reparler du Festival Écran Mix plus tard, puisque tu reviendras nous voir, j'espère bien. Donc, on a parlé de l'ornithologue, qui est un événement écran mixte.
Oui.
Donc, ça rappelle-nous la date. C'est
lundi prochain, à 20h30, au CNP Terreau.
Et Dalida, notre fameuse Dali.
Le mercredi 30 novembre, donc mercredi prochain, à 19h30, au Pâté Bellecour. Allez sur le site du Pâté pour voir s'il reste des places.
Parfait. Je remettrai tout sur,
grande
sur
les réseaux
Facebook et compagnie. Grande soirée, oui. Tapis rouge. Bien, alors j'espère que tu feras ton apparition travestie en Dalida.
On attend ça. Des promesses.
Bon, alors,
on imagine.
Non, mais non, j'ai du mal à imaginer. Mais je voudrais voir ça quand même.
Dès que je me travelote, on dirait une vraie pétasse. C'est affreux.
Mais t'as pas besoin d'être travelotté, tu sais. Bon, bref, ceci est vraiment une émission de PD ce soir. Donc, du coup, Boris, par contre, on va passer à des choses.
Pas du tout plus sérieuses.
Ah bon, c'est pas sérieux en plus.
Non, pas du tout.
Oh, bah alors, Boris, c'est une artiste. Enfin, tu m'en as parlé, moi, je connais pas du tout, hein, j'avoue.
Notre invité, il y a deux semaines qui devait passer le titre, donc c'est Guédré, qui est une chanteuse, alors qui est d'origine lituanienne, qui est comédienne de formation et qui écrivait des chansons et à un moment donné a décidé d'aller dans les bars les chanter. Et puis elle est tombée sur Raphaël Mesrahi et Laurent Baffy et ils sont tombés complètement amoureux d'elle et ils lui ont proposé de commencer à passer ses chansons au plus grand public. Et donc elle a fait quelques albums. Là, elle est là pour le coup ce soir pendant qu'on est en train de faire l'émission au Transborder. Elle refait une tournée là. Alors elle qu'elle appelle Tournante. Voilà. Et puis elle a fait déjà quelques titres. Elle a fait l'Olympia. Hein. elle a fait quelques titres comme Toutes des putes, Pisser debout, On fait tous caca.
Ah oui.
Et voilà. Et donc c'est comment te dire, Gérald, c'est un mélange entre Pierre Perret et Georges Brassens. Voilà.
D'accord.
Alors c'est des textes effectivement. Alors elle est souvent sur une musique très simple avec un costume très enfantin. C'est cru, politiquement incorrect, beaucoup d'humour noir. Donc on peut le prendre au premier degré, mais on peut aussi se réfléchir un petit peu sur des paroles qui sont parfois ingénues, parfois vulgaires, mais qui au fond ont beaucoup de choses à dire.
Ah, on fait tous caca.
Voilà. Alors, je sens que ça va te plaire, Yvan.
Alors, là, on va écouter Soyez PD. Alors, Soyez PD, c'est une reprise. Hein. Elle chante. C'est donc Guédré qui chante. Mais ça a été écrit dans les années 70 par un duo comique français, Font et Val, que je ne connaissais pas. Et donc, ils ont écrit cette chanson. Et donc, elle chante Soyez PD.
Alors, attends une seconde, oui. Parce que je vais saluer notre ami Yvan quand même. Parce qu'on va terminer
sur l'émission. On termine là-dessus.
Voilà, on va écouter Soyez PD. On va vraiment nous accuser de, comment tu disais,
d'homosexualisme.
De prosélytisme. Voilà.
Vous quitte, je m'efface. Rideau.
Voilà, c'est ça. Alors, rideau tombe jusqu'à la prochaine fois. Et on se retrouve donc pour une prochaine émission, j'espère bien. Merci en tout cas d'être venu, Yvan. Encore ce soir, Yvan, directeur artistique de notre festival Écran Mix auquel nous sommes attaché. Merci Boris d'être là ce soir, d'avoir participé et fais-nous donc découvrir cet artiste dont je n'arrive pas à prononcer le nom.
Guédré, c'est lituanien, c'est un prénom lituanien.
C'est dur, Guédré. Hein. Bon, écoutez, Soyez pédé.
La meilleure méthode de contraception, la pilule ou la capote, non. Pour freiner le flot de la natalité, il n'est qu'un remède, soyez pédé. Soyez donc lesbienne ou bien bisexuée, et dites donc merde à la pharmacopée, et dites donc merde à votre sens chrétien. Regardez vos enfants, c'est tous des mongoliens. On leur a foutu dans leur pauvre crâne qu'un couple idéal c'est un homme, une femme. Il est temps de dire à nos écoliers, pour changer un peu, devenez pédé. Ça n'empêche en rien d'aimer l'autre sexe, il ne faut pas que ça devienne un complexe. Pas non plus d'ailleurs un titre de fierté. Roulons-nous des galoches en toute impunité. Foutez donc en l'air ce modèle classique du couple uniforme borné statique. Croisons nos pénis et que nos vagins tout autour du monde se donne la main. Y'a pas de phallocrate chez les escargots. Prenons des leçons chez nos frères animaux, qui baissent en même temps qu'ils se font baiser, pour attraper le temps qu'ils mettent à se rencontrer. Oh combien de mariages hétérosexuels se sont achevés dans des bris de vaisselle. Pour freiner le flot des mariages bâclés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. Fini les divorces devant la justice, qui n'a pas à foutre son nez dans nos cuisses. Les repas de mariage et les parents heureux de voir que leurs enfants vont se faire chier comme eux. En tant que philosophe, je prétends que l'amour est une bien belle chose, et j'ajoute que pour endiguer les flots des culs refoulés, il n'est qu'un remède, soyez pédés. C'est contre nature, dit le dictionnaire, ça ne l'est pas plus que la bombe nucléaire. La seule chose qui soit contre nature, c'est les cons qui nous empêchent d'aimer qui nous plaît.
Pluriel gay. L'émission gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.